La soif de l'archive avec Loïc Jacquet, Laz. Laz collecte depuis la fin des années 90 et début 2000 tout ce qui porte aux thématiques trans et intersexes. Livres, articles dans des magazines ou blogs, affiches et flyers. Il fréquente les premiers forums et explore le net anglophone à la recherche d'informations. De cette soif d'archives, il en tire un site web et une grande bibliothèque assez informelle. En 2007, il déménage avec Vincent Guillot, dit Sarita, dans le Finistère et cofonde avec Yael le Lodoti, local de documentation trans et intersexe. Laz revient sur les débuts du web et les premières heures des forums FTM, sur la création de son site web et sur son parcours en partant des premières assos de Lille jusqu'à la création du Lodoti en Bretagne.
Donc je m'appelle Laz. C'est le pseudo que j'avais pris pour quand j'ai commencé à faire des trucs trans sur Internet, dans le temps, pour me détacher d'autres communautés dans lesquelles j'appartenais en fait à l'époque. Ça fait 20 ans que je fréquente la communauté trans. Et assez rapidement, j'ai commencé à écrire des petits trucs, en fait, à vouloir partager de ce que je pouvais lire en fait sur le net anglophone, à vouloir le partager en français. Ce qui a amené petit à petit à commencer à faire un premier site web, un premier forum, seconde mouture de forum. Et en parallèle, il y avait ce truc de commencer à récolter en fait tout ce que je pouvais trouver sur les questions trans en fait. Pareil, garder trace de ce que je pouvais trouver dans les journaux, dans les livres. Et aussi, il y avait tellement de choses en fait qui étaient écrites en anglais. Et il y avait tellement rien en fait en français. Donc ça a été ça, vouloir accéder à tout ce qui se faisait en fait en langue anglaise, quoi. Et généralement, je me décris pas trop comme militant ou activiste, parce que moi je l'associe beaucoup à faire des choses en fait dans la vie réelle, en dur, organiser des actions, alors qu'en fait j'ai plus participé à des actions plutôt que organiser des trucs moi-même. Et c'est beaucoup de choses que j'ai fait par Internet. Et puis, toujours ce sentiment de c'est quoi être un vrai militant, un vrai activiste par rapport à d'autres personnes. Les premiers forums que j'ai fréquentés, c'était on va dire 99-2000. Tu avais le forum du CARITIG, le centre d'aide et de recherche et d'information sur la transsexualité et l'identité de genre. Ils avaient un forum via leur site web et après il y a juste un peu un forum sur gay.com. Je pense qu'il y avait déjà le forum de Gayvox. Et c'est là que j'ai commencé juste ces petits trucs. Tu sais, on n'utilise plus trop ça maintenant, les passing tips, les petites listes de choses à faire pour passer dans le genre souhaité. Et en fait, à l'époque, sur l'internet français, il n'y avait strictement rien en fait concernant les mecs trans. Mais rien de rien de rien. Et moi, je voyais tous ces sites américains qui donnaient des infos sur les hormones, les opérations. Et à l'époque, je comprenais déjà pas mal l'anglais. Parce que c'est ce qui m'avait motivé aussi à mieux comprendre l'anglais, en fait, pour apprendre des trucs sur les trucs trans. Et c'était l'époque des forums, de toute manière. Et donc, j'ai fait un premier site web. Ouais, c'était quoi, 2000, on va dire 2003. En fait, quand j'ai commencé à transitionner physiquement, c'est ça que j'attendais. Parce que j'estimais avoir des choses à dire, à raconter. Et donc je commence à faire un premier site web pour parler de ma transition, en mettant des photos, et avec des photos très explicites, tu vois, vraiment des photos de mon corps entier, des photos de mon sexe, en fait. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien, rien, rien. Et à faire des petits résumés, les effets de la testo, les différentes opérations. Je ne sais pas, ouais, c'était la mode des forums, donc c'est venu naturellement d'en faire un. Et tout de suite, ça a pris, parce qu'il n'y avait rien. Et je crois qu'entre-temps, le CARITIG s'était plus ou moins cassé la gueule, que leur forum n'existait plus. Il n'y avait rien pour les mecs trans, en fait. Il y avait juste un ou deux forums pour les meufs trans, ou les travestis. Et donc je commence à faire ça, et en fait, la sauce prend. Donc ça, ouais, c'était 2003. Je suis contacté, je commence à aller à certaines actions du CARITIG. À l'époque, j'habitais dans le Nord. Donc ils font des trucs à Lille, donc je vais à l'un d'eux, je commence à rencontrer des gens. Parallèlement, tu as Vincent Aizé du GATT qui me contacte pour me proposer d'intervenir dans Bistory Oui Oui. Et j'étais déjà venu quelques fois sur Paris. Et là, en fait, je viens sur Paris. C'est genre l'une des premières fois que je rencontre d'autres personnes trans, quoi. Et c'est là que je commence à fréquenter, du coup, les gens du GAT et à certaines actions. Et j'étais à la fac à cette époque, donc j'avais beaucoup de temps libre. Alors j'étais en psycho. Et donc je faisais plein d'allers-retours, Lille, Lille-Paris. Et parallèlement, ouais, nourrir mon site, nourrir le forum, qui devient vraiment le forum FTM Variation, donc qui était un forum d'information et de débat pour les personnes trans FTM et personnes apparentées et leurs proches. Et vraiment centré à la fois sur cette double dynamique qui était l'info, sur toutes les modalités de transition, sur la sexualité, parce que dès le début, ça a été important pour moi de parler de ça, sur aussi les débats, en fait, les discussions, les débats, et avec une optique de gauche, quoi. Parce que ce n'est pas forcément le cas sur plein de forums trans, plus ou moins réac. Et avec cette optique de montrer la diversité des parcours et la diversité des sexualités, la diversité des identités, qui dans les années 2000 n'était pas forcément bien acceptée, en fait, même encore maintenant, mais ça a beaucoup, beaucoup évolué quand même. En même temps, je montrais ce qui se passait aux États-Unis au niveau des transitions. Moi, j'avais un certain dilemme, parce que je me disais, je vais donner des liens vers des résultats de chirurgiens qui étaient à milieu de ce qui se faisait en France. Et je me disais, qu'est-ce que ça peut aussi provoquer chez les gens, en fait, de voir ces résultats-là qui ne pourront pas se payer. Parce qu'en France, c'était assez lamentable. La Belgique, je ne trouvais pas ça top non plus. Et même pour moi, j'étais assez désemparé parce que j'étais homo. Donc je me disais, je vais me faire rejeter en fait si je vais en équipe hospitalière. Et en même temps, je me vois mal aller dans un autre pays pour me faire opérer. Donc j'avais commencé à regarder, mais ça semblait inimaginable. Et c'est vraiment par les connexions avec d'autres personnes trans, du coup par Vincent Aizé, qui m'a donné les coordonnées de son chirurgien, et c'est lui que je suis allé voir. Et en y repensant, c'était le genre de choses que je déconseillerais maintenant. C'est genre, je suis allé me faire opérer par ce chirurgien, et c'était, j'avais juste eu un résultat, et sur quelqu'un qui n'avait pas du tout le même type de poitrine que moi. Et j'y suis allé parce qu'il n'y avait pas de temps d'attente, quoi. Il était en clinique privée, je suis allé le voir, et un mois après, j'avais ma date d'opération. Et c'est que... Non, enfin, je repense, enfin, c'est ce genre de truc où tu vois, le chirurgien, bon, après j'ai eu plusieurs reprises sous anesthésie locale dans son cabinet, et c'était assez folklorique, parce que c'était un truc dans le 16e, dans la salle d'attente, tu vois, un grand immeuble vraiment très bourgeois, et toi t'es là, tu détonnes avec les autres personnes dans la salle d'attente, et dans le cabinet, il te réopère à nouveau, et genre à un moment, il y a son chat, tu vois, qui marche, tu vois, dans le cabinet, quoi. Mais c'était quelqu'un qui, du moment que tu payais, en fait, il t'opérait. Il a opéré quand même pas mal de monde, et des personnes genderqueer, des personnes qui prenaient pas de testo, avec des résultats plus ou moins variables, en fait. Mais ouais, c'était, je me dis, c'est pas le genre de choses à faire. Mais c'était ça où je me disais, j'ai pas d'alternative en fait, c'est soit aller en Angleterre, soit aller en Belgique, soit aller en Suisse, en Allemagne ou aux États-Unis. Du coup, si tu avais de l'argent et des connexions, voilà, tu te faisais en effet opérer par la star américaine Bronstein. Et c'était tout ce début de construction, vraiment les années 2000, vraiment tout ce début d'apparition de la vague des mecs trans, des personnes genderqueer, FTX. Et pour moi, le point d'orgue, c'est l'existence de 2005, où il y a vraiment un bloc mec trans, FTM, avec la banderole. Vraiment, pour moi, la visibilité, vraiment le gros bloc arrive là. Et c'est vraiment passé d'une époque où, sur les forums, on se connaissait tous les uns les autres en tant que mec trans. Et à un moment arrive où tu en as 100, 200, 300, et tu ne connais plus les gens, quoi. Ouais, c'était vraiment très, très impressionnant, quoi. Et par contre, en tant que mec trans homo, on restait vraiment une minorité, quoi. À l'époque du forum du Caritig, j'en connaissais sur toute la France, je crois, 3 ou 4, quoi. Et c'est resté assez minoritaire. Tandis que maintenant, t'as des tonnes de mecs trans qui se revendiquent homo, quoi. Moi, je me considérais comme un suiveur, tu vois, à participer aux actions, ou donner des coups de main. Et je pense que je pouvais avoir cet étonnement de dire, mais genre, pourquoi je traîne avec eux, pourquoi ils traînent avec moi. Je me souviens, si tu veux, on était allés tous un week-end en fait en Normandie, donc avec Jean Dugat, et puis avec Karine et Maude, et deux autres personnes, et deux, trois autres personnes. Et je me disais, mais pourquoi je suis là avec eux? Genre, c'est tous les militants, pourquoi moi je suis là? Et je pense, oui, j'avais ce sentiment d'illégitimité, et sans doute ce sentiment d'infériorité, de me dire, mais de ne pas réussir à juste comprendre que je fais des choses militantes en fait. Et aussi, je suis leur ami. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement, quoi. Pour moi, ça ne me demandait pas un énorme engagement non plus. Je pense que c'est aussi ça que je le conçois. Que c'est quelque chose que je faisais de chez moi. J'aimais être sur Internet, j'aimais coder des sites web, installer des forums, gérer des forums. C'est pas, pour moi, c'était vraiment la différence de ce truc où tu dois organiser une action avec des possibles répercussions judiciaires. Et vraiment aller dans la rue, faire des banderoles, te coltiner avec les gens de la sécurité, ou les possibles réactions des passants, ou aller au front dans des séminaires, ou oui, interagir avec des médecins ou des élus. C'est comme ça que je le voyais, et je pense que je suis toujours un peu comme ça en fait. C'est pour ça que je considère que je suis toujours pas militant ou activiste. Donc c'est 2007 et c'est là qu'avec Vincent on arrive en Bretagne. Quoi. Mmh. Il y a toute une période où je suis allé beaucoup sur Paris. Et après 2007, c'est le déménagement vraiment dans les Côtes d'Armor, quoi, vraiment à la campagne. Ouais. On fait ce choix-là, Vincent devait s'éloigner de Paris. Et aussi on avait le désir de genre on va aller vivre à la campagne, l'autosuffisance, on aura des bêtes, j'aurai mon chien. Et comme Vincent avait des attaches en Bretagne, on s'est posé un peu avant de trouver donc, le logement. Et ça a été à la fois ce plaisir vraiment au début, d'être vraiment à la campagne, avec, tu vois, de passer de Vincent qui payait 600 euros son 24 mètres carrés à l'époque, j'imagine que c'est peut-être plus cher maintenant, à on arrive à la campagne, on a une maison de 100 mètres carrés, 2 hectares de terrain pour 450 euros. Et maintenant, je considérerais ça cher, en fait, tu vois, vu comment était la maison, quoi. Et par contre, c'est vraiment la coupure pour moi avec vraiment, en gros, tous mes amis, en fait, de Lille. Tout ce milieu homo, LGBT, dans lequel je commençais à me sentir bien. Et ça, pour moi, ça a vraiment été le truc au fur et à mesure qui m'a pesé. Parce qu'après, en Bretagne, on n'a jamais trop réussi à trouver, ça a mis très très longtemps en fait de trouver les poches en fait LGBT, queer, et la majeure partie des gens qu'on connaissait étaient soit hétéros, soit il y avait aussi pas mal de lesbiennes, et moi ça me satisfaisait pas parce que moi j'ai vraiment besoin de relationner avec des mecs, même au niveau amical, et avec des mecs qui sont pas hétéros. c'est au point que je suis allé à 2009, je suis allé à Voltaire, et pourtant c'était traverser toute la France. Et en y allant là-bas avec vraiment ce truc, mais j'ai besoin en fait d'être de nouveau avec des mecs pas hétéros et de pouvoir avoir ce contact physique sensuel, amical, avec des garçons et dans un milieu non hétérosexuel, quoi. Parce que la particularité en Bretagne, c'est que vraiment les poches LGBT, queer, c'est vraiment juste des mini-collectifs ou juste deux, trois groupes de personnes. C'est vraiment un maillage. Tu vois, dans tout le Finistère, il n'y a pas de centre LGBT. Il n'y a quasiment pas d'assaut, il n'y a pas de pride, 2-3 bars gay-friendly. Donc c'est vraiment très dur en fait de trouver des endroits où se retrouver, quoi. C'est pour ça que quand le festival de Douarnenez a lancé sa thématique LGBT, que ça a été très intéressant, parce que là, ça devenait vraiment le point focal où les gens se disaient, là, si je vais la dernière semaine d'août à Douarnenez, je vais me retrouver avec plein de queers, de personnes LGBT qui vont venir, quoi. Et pendant longtemps, on faisait beaucoup la promotion. On disait aux gens, mais venez, venez en Bretagne, plutôt que d'être au chômage ou au RSA à Paris. Venez en Bretagne, c'est beaucoup moins cher. Il n'y aura pas de travail non plus, mais les loyers sont moins chers. Mais par contre, oui, c'est des toutes petites villes. Ouais, c'était devenu, quand on quitte le logement social où on était, pour se retrouver dans ce corps de ferme, donc avec beaucoup d'espace et avec du coup divers amis ou même diverses personnes qui passe. Pour moi, c'est l'occasion de vraiment me dire, il y a tellement de place que l'une des pièces, ça va être là où je vais commencer à constituer, à installer mon fonds documentaire. Alors au début, je mets tout le truc LGBT, et à la fin, je me dis, non, je vais faire vraiment que trans-inter dans cette pièce. Et comme en fait, on connaît plein de gens qui habitent en ville, et du coup, beaucoup de gens venaient pour ce plaisir d'être juste à la campagne, même si c'était vraiment très, 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 très isolé. Il fallait vraiment une voiture pour y aller. C'est devenu petit à petit l'idée de, pour certaines personnes, un lieu où elles pouvaient venir se poser un ou deux jours. Il y avait un peu ce désir d'en faire pas un lieu collectif, mais un lieu, une espèce de lieu, mini-lieu communautaire. Après, moi, c'était un lieu dans lequel je n'arrivais pas du tout à me projeter dans le futur, dans l'avenir, parce que ça nécessitait beaucoup de travaux, en fait, beaucoup d'entretien. Et on se retrouvait globalement à deux pour s'occuper de tout. Et c'était juste impossible. Et aussi, c'était des conditions très dures l'hiver, avec pas vraiment de chauffage, beaucoup d'humidité, beaucoup de boue. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont passés par là, tu vois. Genre, il y a deux semaines, lors d'une rencontre, j'ai rencontré quelqu'un, une personne qui venait de Suisse, et qui me dit à un moment, mais en fait, on se connaît déjà. Je suis venu à Kerriwal, mais je crois en 2015, on a essayé de retrouver, et j'étais là, désolé, moi, je ne me souviens pas de toi, en fait. Mais c'était marrant de me dire, waouh, en effet, ça a marqué certaines personnes de passé, quoi. Il y a ce truc où j'ai toujours eu beaucoup de livres. Et donc, quand j'avais commencé à aller sur Paris, chez une pote, à un moment, il se trouve qu'elle est en coloc, en fait, avec Boursier. Elle ne savait pas qui c'était au début, puis après, elle dit « Oh, tu ne diras jamais avec qui je suis en coloc, tout ça. » C'est Boursier, tout ça. Et la première fois que je vais là-bas, c'était vraiment... Je ne sais plus comment c'était dans la réalité, mais moi, j'ai ce souvenir de rentrer dans un grand salon avec plein d'étagères et remplis de livres sur le genre, les trucs trans, le queer, et des piles par terre, des bouquins sur des présentoirs. Et je me dis, mais moi j'aurais ça en fait. Et ça devait être peut-être 2003. Et ça m'a vraiment marqué. Et j'ai dû commencer à acheter des bouquins. J'allais au mot à la bouche, un peu chez Violet & Co. Il y avait aussi le Blue Book. Et aussi par Amazon en fait. Tout ce qui était les bouquins américains. Et d'ailleurs, il y a certains de ces bouquins-là que je continue de garder, en fait, du coup, que je n'ai pas donné au Lodoti, parce qu'il y a certains bouquins qui m'ont vraiment accompagné, en fait, depuis le début, quoi. Et donc, je commence, tu vois, à accumuler, et puis, pareil, à accumuler, tu vois, des flyers, des affiches, des brochures, toute la petite papeterie, comme ça, quoi, des autocollants. J'ai aussi ce truc d'aimer, garder les souvenirs. Enfin, tu vois, dans l'espace, je suis le genre de personne qui colle des trucs au mur, qui aime bien garder des traces. Et donc, le point d'orgue, c'est vraiment qui arrive en me disant, je vais vraiment faire un truc dédié, une pièce, et je vais faire mon centre d'archives trans-inter. Et je crois, officiellement, c'est 2015, en fait. Mais c'était vraiment mon trip à moi, quoi. Le lieu était tellement isolé, et je suis tellement incapable, en fait, d'impulser quelque chose par moi-même. C'était ce lieu que j'alimentais chaque fois qu'on allait quelque part, ramasser en effet les affiches, les flyers. Ou quand j'étais retourné à Lille, j'avais fouillé dans leurs archives pour récupérer, pareil, tout ce qui portait la mention personne trans ou intersexe. Voilà. J'avais fait ça un petit peu à Bordeaux, j'avais fait ça aussi à Clermont-Ferrand. C'est assez fabuleux. J'avais envie de documenter des choses, mais qui sembleraient futiles, genre à partir de quelles années le T et le I, tu vois, sont vraiment inclus systématiquement, ou voir l'évolution des diverses non-mixités, comment c'était écrit au fur et à mesure, ou pareil, moi ça m'éclate de voir les changements de définition du mot cisgenre au fur et à mesure des années, tous les changements de vocabulaire. J'avais cette envie d'accumuler tous ces changements. Tu vois, moi, je suis le genre de personne qui, dans le temps, en fait, collectionnait des dictionnaires. Et qui, et qui regardait les changements de définition du terme homosexuel ou transsexuel en fait dans les différents dictionnaires, tu vois. Et c'est pour ça que dans le Lodoti, t'as plein de vieux bouquins ou plein de documents, de vieux trucs qui sont super transphobes ou super réac. Et moi, je trouve ça tellement intéressant de voir. Et c'est pour ça, et de la même manière que maintenant, je vois, il y a des termes ou des positions qui sont considérées transphobes maintenant. Et dans ma tête, j'étais, ah ben oui, mais c'était la norme, en fait, il y a 10 ans. Ça m'aide, moi, à relativiser certaines choses, en fait. Et des fois, moi, me prendre la tête en me disant, OK, c'est juste que la nouvelle norme de langage, c'est ça. OK, ça sera différent dans 10 ans. Et voilà, quoi. À chaque fois, c'est pas une vérité absolue, mais que c'est vraiment un outil, en fait, à une époque, l'outil politique de pourquoi on utilise, on choisit d'utiliser tel terme ou pas, ou telle définition. Et aussi, ce que je voulais faire avec le Lodoti, c'était ce truc de... parce que dans le Lodoti, tu as des bouquins spécifiquement trans-intersexes. Tu as aussi plein de documentation et de livres sur la variance de genre en général, sur les butch, les folles, les travestis, les drag kings, les femmes travesties dans le passé, et dans plein de pays différents. Et aussi des bouquins gays ou lesbiens. Je voulais vraiment pouvoir qu'on puisse avoir une lecture en fait trans ou intersexe de livres gays ou lesbiens, parce que il y a eu tellement cette vision à la base de l'homosexualité en tant que troisième sexe, troisième genre, avec vraiment tout ce qui était travestissement, comportement identitaire était fondu en fait, plus les théories biologiques sur l'homosexualité. Donc pareil, pour moi, ça me semblait intéressant en fait d'avoir ces vieux bouquins de psycho qui t'expliquent que voilà, les homos en fait sont des femmes à l'intérieur et peuvent avoir des caractéristiques physiques féminines. Parce que pour moi, les lignes ne sont pas claires en fait. Du coup, c'est local de documentation trans-intersexe. Je mets en place vraiment l'association, je pense peut-être 2017. Quand l'asso se crée officiellement, c'était pour tenter d'obtenir des subventions, quoi. Et à la fois d'avoir un compte bancaire pour récolter des fonds pour toutes les personnes réfugiées en fait, dont s'occupait Vincent, quand on faisait des récoltes de fonds pour que l'argent ne soit pas sur le compte bancaire, ou nous, si on était en déplacement, pareil, que ce soit plus clair en fait, au niveau de l'argent. Et, bon, pour les subventions, ça n'a jamais marché. Parce que, tu vois, quand j'ai fait des demandes de subventions, enfin, ça a toujours été refusé, et dans ma tête, je me disais, mais c'est normal aussi. Parce que de toute manière, qui va vouloir financer en fait quelqu'un qui dit ah, on veut aller se déplacer dans diverses villes pour faire des récoltes en fait d'archives, des collectes, alors qu'il y a tellement d'urgences en fait sanitaires au niveau trans en fait. Il y a tellement peu d'argent qui est alloué en fait spécifiquement aux questions trans que oui, je comprenais totalement que je me fasse pas financer pour aller récolter des flyers, des affiches, des brochures. Et du coup, pour l'histoire d'aider les réfugiés, ça se faisait par des cagnottes en fait en ligne. Et ça marchait très bien. Oui. Donc du coup, dans les objets de l'asso, c'était la partie archive et la partie militante en fait. Donc du coup, c'était réparti comme ça. Moi, c'était mon trip de toute manière, dont je m'occupais des archives de la doc. Et Vincent gérait la partie ONG, réfugiés et tout ça. Et tout ce qui tournait autour des combats législatifs. C'est vraiment ça vers la fin que j'ai commencé à indexer en fait les livres en ligne. Parce qu'à Kerivoile, il y a eu beaucoup de problèmes d'Internet, de toute manière. Pendant longtemps, on est passé plusieurs années sans Internet. Et donc le travail, c'était essayer un questionnement sur comment les classer. Est-ce que je les classe par thème? Mais certains livres appartiennent à plusieurs thèmes. Donc à un moment, je les ai classés par thème. À un moment, je les ai classés par langue. À un moment, c'était classé par année, par décennie. À un moment, c'était classé par personne concernée, entre guillemets. Et puis, tu vois, essayer de séparer les autobios, les bios et la fiction aussi. Mais il y avait ça. Et puis, beaucoup donc de récoltes de papier, de feuilles libres. Et donc ça, pareil, essayer de par classeur, en fait. Faire des classeurs, plein de classeurs. Je crois qu'il y a une vingtaine de classeurs. Et aussi beaucoup d'impressions. Imprimer des articles du net, imprimer des articles de journaux. J'imprimais aussi des articles de blog. Je sauvegardais certains sites web et après je les remettais en page et j'imprimais. Et acheter des magazines en fait. ou piocher dans les piles de magazines chez le médecin, ou tu tombes sur l'article que tu découpes discrètement. Et être à l'affût, en fait, voilà, de tout ça. Chaque fois, être dans l'esprit que chaque fois que j'allais quelque part, à chaque fois qu'on allait à une projection, à un débat, qu'on se rendait dans une ville, tiens, dans les piles de documents, est-ce qu'il y a des choses qui parlent des personnes trans ou intersexes ? Tu vois, tu vas dans un bar gay, il y a toujours des petits dépliants, machin, hop, je jette un œil, est-ce qu'il y a quelque chose qui en parle ? Et par la suite, quand j'ai travaillé en bibliothèque, c'était parmi tous les magazines qu'on recevait, les feuilles qu'on recevait, je les feuilletais. Et pareil, j'ai pas mal photocopié, en fait. Parce qu'en particulier, ces dernières années, c'est vraiment très commun, en fait, très courant, dans les magazines grand public, dans les journaux, d'avoir des articles sur les questions trans. C'est à la limite presque chaque semaine, en fait, que ça en parle. Et du coup, c'est intéressant de voir la différence entre comment c'est traité dans le Nouvel Obs et comment c'est traité dans Marianne. Donc, comme le fonds d'archives n'est toujours pas encore parti totalement à Marseille, à la Sauge en lutte, j'ai encore continué à photocopier, certains articles quand je travaillais encore, à récolter quelques flyers. J'essaie de me contenir. Mais bon, par exemple, oui, j'achète plus de livres, de toute manière. Mais si quelque chose me tombe sous la main, je continue. Et ne serait-ce que parce qu'il y a des choses que, principalement des fanzines, et que aussi je garde pour moi, que j'ai photocopiées, en fait. Je vais garder, de toute manière, pour moi-même. Je garde une petite dizaine de mes propres livres que j'ai envie d'avoir avec moi. Et puis, je garde quand même toute une caisse de fanzines. Donc pareil, photocopier pour pouvoir qu'il y ait des doubles. Mais c'est dur d'arrêter cette habitude de « tiens, ça parle des trucs trans, hop, je prends le flyer, mais après oui, il faudra que j'arrête. » C'est aussi quelque chose que j'ai envie aussi de me détacher de ce fond-là. Parce que moi, voilà, j'ai toujours dit, j'ai pas envie en fait de me retrouver à 60 ans avec tout un appartement rempli d'archives. J'ai envie de pouvoir, si je veux bouger en fait, si je veux partir, ne pas être sous le poids, en fait, des archives. D'un côté, en effet, ces archives sont importantes, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me sentir lié, en fait. Je peux être dans l'état d'esprit de genre, c'est pas grave au final, genre, si je fais pas ci ou si je fais pas ça, ou s'il manque ci ou ça, que... Ok, si ça existe, c'est important. Si ça existe pas, genre, on fera autrement, ça se passera autrement. Mais il y a des choses que je regrette de ne pas avoir archivées. Tu vois, l'un des premiers articles sur les trucs trans, j'avais découvert ado dans Femme Actuelle. J'aurais adoré, en fait, le garder. Je l'ai perdu, en fait, au fil du temps, quoi. Moi, j'ai aucun souvenir de comment j'ai appris le terme transsexuel, en fait. C'est juste qu'à un moment, je l'ai regardé dans le dictionnaire. Et c'était à l'époque conviction délirante pour une personne d'appartenir au sexe opposé. Et ce qui est terrible, c'est quand tu te reconnais en fait dans cette définition. Et après, j'ai un pauvre article dans Femme Actuelle. Et peut-être 2-3 ans après, je tombe sur 2-3 bouquins. Donc à l'époque, tu vois, c'était changer de sexe de Colette Chiant. T'avais une bio d'un mec trans, là, un homme en elle, traduite de l'anglais. Et après, c'était je repense, oui, c'était que les trucs psychanalytiques. Tu vois, je repense où j'avais filé le bouquin de Chiant à faire lire à ma mère. Il n'y avait rien d'autre. Et quand je l'ai relis après, elle expose la théorie qui était en vigueur à l'époque sur le transsexualisme féminin, qui est ce sont des bébés moches qui avaient une mère dépressive et du coup qui, genre, prennent la place du père. Moi, j'étais là, mais en même temps, moi, j'aime que les garçons, donc ça fait quoi de moi ? Et pareil, ça a été ce travail d'essayer de grappiller des bribes de « mais quand est-ce qu'on commence à parler de l'homosexualité chez les mecs trans ? Quand est-ce que ça vient ? De quelle manière on en parle ?» C'est ce désir de représentation. J'ai même eu une période, en début de vingtaine, où j'ai eu une période de questionnement où je me disais « mais parce que je voulais pas être trans à la base. » Et j'avais beaucoup de honte. Et je me disais, mais peut-être que je peux vivre en tant que meuf très très masculine. Donc quand j'avais la vingtaine, je me dis, peut-être que je suis juste une femme qui veut avoir un torse plat, des poils, une voix grave, une barbe. Mais en même temps, j'aime que les garçons. Donc j'essayais de trouver des représentations de femmes masculines hétéros. et t'en as quasiment aucune. Et surtout que les années 2000, c'est toute la grande période où on parle du continuum Butch FTM, où tout tourne autour de ça, en fait, de ces questions-là. Ouais, parce que j'ai eu vraiment une période où je voulais pas être trans. Donc. Et puis, ce truc où, parce que dans ma... Tu vois, moi, comme je dis que je suis un homme parce que je suis perçu comme un homme et que je ne rejette pas cette assignation, en fait. Sinon, dans ma tête, je ne me considère pas spécialement, tu vois, homme ou femme, en fait. Et peut-être que maintenant, tu vois, si je transitionnais maintenant, peut-être que je me serais dit, tu vois, non-binaire ou... Mais à l'époque, moi, je me disais juste, en fait, il y a plein de gens qui ont leur apparence extérieure et de toute manière, la manière dont ils se considèrent intérieurement est différente. Et il y a juste, en effet, ton rôle social et qui ne te correspond pas forcément. Et moi, je ne conteste pas, du coup, le rôle social dans lequel je suis. Donc, oui, je suis un homme de toute manière, quoi. Et après, en fait, c'était me rendre compte que ça n'avait pas trop d'importance, en fait, dans ma vie, de toute manière. Dans le temps, j'avais aussi fait un site web, du coup, un site d'archives, mais que virtuel, où j'avais recensé tous les événements trans qui se passaient en France, que je pouvais trouver sur Internet. À l'époque, c'était encore possible. Donc, j'ai fait ça jusqu'en, je pense, 2009. Je pense jusqu'à l'arrivée d'Outrans, je pense, à cette période-là. Ben, je voulais vraiment, vraiment visibiliser. En fait, dans toute la France, il se passait depuis les années 80, fin des années 90, des conférences, des débats, des projections, des festivals, des permanences en direction des personnes trans. Et vraiment, dans plein de coins de France, il y avait pas mal de petits groupes, assos, de trucs minoritaires ou de trucs faisant partie de centres LGBT. Et comme j'habitais à Lille, encore à l'époque, je crois, j'avais vraiment envie de montrer tout ce foisonnement, en fait. Parce que c'est vrai que comme moi, j'ai toujours habité en province. Et je sais que ça m'avait toujours agacé, ne serait-ce que dans les journaux télévisés où on va donner des infos et c'est toujours sur ce qui se passe à Paris. Donc j'avais vraiment envie, en fait, de montrer tout ce qui se passait, en fait, dans tout le reste de la France. À l'époque, on n'avait pas envie que ça parte à Paris. Parce qu'on se disait, Paris est tellement cher, en fait. On est allé peu de fois à Paris parce que c'était toujours galère de trouver un hébergement et une fois là-bas, enfin manger ou aller dans les bars ou les trucs. Et donc on se disait on aurait plus envie en fait que des trucs se fassent ou limite dans une grosse capitale régionale quoi. Et je pense en étant aussi sur ce truc d'essayer de décentraliser en fait. Et donc c'est vrai que du coup moi je suis vraiment resté sur ce truc de me dire bon, de toute manière, à Kerriwal, c'était pas possible. Et d'essayer, en gros, de trouver un juste milieu entre Kerriwal et Paris. Douarnenez aurait pu être pas mal, si quelque chose s'était fait. Comme je pense qu'il y a vraiment moyen que ça devienne un spot de plus en plus gros, en fait, au niveau queer ou au niveau LGBT, si les dynamiques continuent, en fait, dans les années qui viennent. Mais entre le Covid, en fait, et du coup, et les tensions avec Vincent, il s'est trouvé en fait que quand, je sais plus, je pense que j'avais contacté Jean Lutte et eux s'apprêtaient à me contacter aussi quand au printemps dernier, j'avais posté un premier truc sur pour parler qu'est-ce que l'Odoti était devenu ces derniers temps. Et j'avais vraiment eu un bon feeling avec Jean Lutte et je leur avais dit, là j'essaie de voir en fait quelles alternatives sont possibles et je vous recontacterai si besoin. Et en fait, moi j'ai juste pas du tout l'énergie en fait ou les réseaux. Et les choses sont faites de telle sorte qu'une espèce aussi de lassitude de me dire, ok, agent en lutte, l'équipe a l'air vraiment motivée, c'est un groupe. Marseille, c'est plus accessible que Kerriwal. Et j'aimais bien l'idée que ce soit vraiment un peu comme pour ce truc des UH, en fait. Alors, quand on habite en Bretagne, du coup, ça fait loin. Mais j'aimais bien l'idée d'envoyer le fond dans un lieu où je me dis, ça circule, en fait. Comme Marseille est devenue à mes yeux la plaque tournante queer du moment. Et je me dis, c'est proche, enfin de, relativement proche de l'Espagne, de l'Italie, et puis proche de, plus proche en tout cas que la Bretagne, de, tu vois, de Toulouse, Lyon, Saint-Étienne, tout ça. Donc oui, je me suis dit, ok, je prends cette décision-là de convoyer en fait le fond. Le fond à Marseille, même si ça a été toute une expédition. Ça a été compliqué, ben, ça pareil, en fait, j'en parle tu vois, dans les différents textes, du coup, ou le dernier de la semaine dernière. Quoi. Ça a été tout un cheminement, tout un... Ça a été très compliqué. Ça, je pense que ça va peut-être... Je ne sais pas si ça va continuer d'être très compliqué. Mais en tout cas, pour le moment, si la situation sanitaire en fait, le permet, j'aimerais faire un autre, du coup, un second voyage pour amener d'autres archives à Jean en Lutte. Je comptais faire ça en août, mais là, vraiment, je ne sais pas trop comme ça explose à nouveau au niveau du Covid. Et je me dis, je ne sais pas du tout, en effet, quelles vont être les conditions pour voyager ou même pour vivre là-bas. Ouais, donc ça remet encore des choses en question, quoi. Et sachant que j'ai pas envie, en effet, de garder encore pendant des mois et des mois et des mois, en fait, toutes les caisses de documents et toutes les piles de livres. Et j'ai pas envie, l'un de mes trucs par rapport au Lodoti, c'était ce truc où, en effet, je voulais pas que ça reparte encore en stockage. Parce qu'au final, c'était en stockage à Kerivoal. Ici, chez moi, c'est en stockage, en fait. Et là, je me disais, non, ça peut pas repartir encore une fois en stockage. Tandis que là-bas, genre en lutte, elle s'apprêtait à refaire des permanences, quoi. Mais pareil, je ne sais pas avec le Covid comment ça va se passer. Mais au moins, je sais que là-bas, ça va circuler. Et c'était, moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur quand je les ai rencontrés, de voir vraiment des gens qui étaient en mode, ouais, donc en effet, on va pouvoir numériser ça. Et puis, elle travaille à cataloguer, en fait, aussi. Et elles sont en lien avec, du coup, d'autres centres d'archives. J'étais là, waouh, mais c'est super, c'est super. En fait, j'ai une grande affection pour vraiment les vieux bouquins, paradoxalement, genre les bouquins des années 80-90, en fait, sur les thématiques Butch Femme, où c'était un peu le début du revival, en fait. Et où, même si j'aimais pas les femmes, je sais pas, ça m'a toujours beaucoup intéressé, en fait, de lire là-dessus. Et sinon, dans les trucs que j'ai, je garde vraiment une grande tendresse pour la biographie de Coccinelle. C'est l'une des choses que j'ai appréciées, en fait, du coup, quand on a eu un peu d'argent à Lodoti pour acheter des livres. Donc c'est un tout petit format, mais je ne sais plus combien il coûtait, peut-être 50 euros ou un truc comme ça. Tu vois, parce que c'est un peu l'icône trans, quoi. Donc elle raconte toute sa vie, elle est interviewée, et il y a beaucoup, beaucoup de photos d'elle. C'est ce livre qui est à moitié témoignage et à moitié livre, pas livre érotique, mais tu vois, livre un peu sexy. Parce qu'elle est, elle est photographiée chez elle, dans des poses où, tu vois, genre vraiment mise en scène en fait. Je crois qu'il y a une photo où elle découpe un poisson, pareil, habillée en lingerie, et quand elle est dans la douche avec... J'ai beaucoup de tendresse pour ce livre parce que ouais, c'est l'une des premières vraiment connues et vraiment l'une des pionnières en France. Et je me disais, ça, c'est... Le bouquin sort, je pense, c'est années 60, 63. Et je me dis, ce livre qui sort dans la France, des années, tu vois, en 1963, moi, je connais trop de personnes trans, en fait, pour me rendre compte de ce que ça fait. Mais je me dis, pour les gens, en fait... D'autant plus à l'époque, ce truc de dire, mais genre, une personne qui change de sexe, même maintenant, tu vois, c'est... Moi, j'arrive pas à me rendre compte. Tu vois, un jour, j'étais avec Vincent et un pote, et genre, je sais plus qu'est-ce que Vincent racontait, et moi, je dis, ah, mais moi, j'ai jamais rien vécu d'extraordinaire dans ma vie. Et Vincent se retourne vers moi, et me dit, non, toi, t'as juste changé de sexe. Et je dis, ah, oui, c'est vrai, mais pour moi, c'est banal. Ça n'a pas demandé de gros efforts, en fait. C'était plus compliqué que ça, mais c'est limite. Genre, tu prends des hormones, tu te fais opérer, et voilà, quoi. Hop, tu changes de sexe. C'est... Et il y avait quand même une communauté qui commence à exister. Et bon, Coccinelle, il y avait quand même une petite communauté dans le monde du spectacle. Mais quand même, elle raconte comment des hommes qui sont transformistes vont mal la considérer en disant, mais genre... En mode, mais vous les trans, vous allez nous piquer en fait notre travail. Genre, vous prenez des hormones, c'est artificiel, en plus vous allez avoir des gros problèmes de santé, vous allez vous suicider après l'opération, alors vous allez nous piquer notre travail. Et tu vois, j'allais dire, ah, il a sans doute dû avoir beaucoup de courage en fait pour faire tout ça. Et en même temps, quand on me dit ça à moi, je sais que j'aime pas, parce que je me dis, j'ai pas eu de courage à faire ce que je faisais, parce que de toute manière, pour moi, c'était une nécessité que je transitionne. Donc c'était pas du courage, je devais juste le faire de toute manière. Mais je peux pas m'empêcher de projeter ce que d'autres personnes extérieures aussi pourraient projeter. Je ne sais pas trop, comme on dit, il y a la fièvre des archives, quoi. Et je ne sais pas trop, pour moi, les archives, il faut trouver le moyen de faire de la médiation culturelle après autour, quoi. Autant les livres, tu peux faire des systèmes de dons, d'emprunts, mais les archives, il faut trouver le moyen d'en tirer quelque chose. À Kerivoile, il y avait peut-être 2-3 étudiants, doctorants qui étaient passés, mais sinon... Si on n'en fait rien, ça reste assez inutile, en fait, tu vois, de juste garder des piles de documents dans des classeurs. Ça n'a aucun intérêt, en fait, si on n'en fait pas quelque chose. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut donner. Et je ne sais même pas si je compte vraiment m'y intéresser, en fait. Je me dis que j'ai peut-être besoin, en fait, de faire un break, en fait, une fois que j'aurai tout convoyé, en fait, du Lodoti. Ouais, me séparer, en fait, de ces questions-là, même si je ne sais pas si j'y arriverai, quoi. Me garder à distance, en fait, de tout ça, quoi. Ben, un peu comme on avait abordé au téléphone, de la même manière que je ne me considère pas militant, de la même manière, pour moi, vraiment, ce truc d'archive et de collecte, c'est plus un truc perso, tu vois, moins un truc qui a été utile. Tu vois, je pense que j'étais beaucoup plus utile, en fait, au niveau communautaire, par les sites web que j'ai faits, et en étant... En étant très visible, en fait, à parler d'être trans et homo et de parler de sexualité, plutôt que par la collecte, en fait, de livres et documents qui, du coup, ont bénéficié à très peu de monde, en fait. Mais après, en effet, peut-être que dans les années à venir, ça va changer, en effet, si c'est pris en charge par une équipe qui arrive à en faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'à un niveau personnel, je me dis, là, ce travail que j'ai fait va peut-être servir plus tard, mais pour le moment, moi, il me semble assez inutile, entre guillemets, en fait.
Cet épisode a été réalisé par Adib Kassaz, qui en a également assuré la prise de son. L'entretien avec Laz a été enregistré à Quimper et a été préparé par Sam Boursier, Adib Kassaz, Néo Gaudy, Marin Lefebvre et Nathan Aran. Le podcast est produit par le collectif Archives LGBTQI en partenariat avec le centre LGBTQI+ de Paris-Île-de-France. La communication a été réalisée en partenariat avec le Master Information Communication CRDM de l'Université Paris-Nanterre. Le feuilleton des luttes est soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.